Bon, voisin, les décidants de notre union à Chocolat est dans une position très heureuse devant tous ces problèmes. Pour lui, la conclusion qui se poserait après tout ce que je viens de dire serait évidemment, au fond, il n'y a pas de judaïsme sans la foi. Et si les juifs existent jusqu'ici en tant que juifs, c'est parce qu'ils étaient restés fidèles à la foi. Et s'ils la perdent, alors en effet, ils perdent la raison de leur être, pour être juifs de toute façon. Je n'ai rien à dire contre cette argumentation, sauf pour dire que les judaïsmes, dans un monde laïcisé, parce que nous parlons évidemment dans un monde profane, laïcisé, il y a 150 ans, 200 ans, cela n'existait pas. Chacun était déterminé par son adhésion, par son appartenance religieuse. Maintenant, c'est un monde laïque. Et alors, le judaïsme laïque, est-ce qu'il existe ou non? Pour ma part, je pense qu'il peut exister. Et pour le dire d'une façon un tout petit peu ridicule, je dirais moi-même, je suis un exemple de cela. Je suis, dirais-je très typiquement, un juif, un judaïque, non religieux et non nationaliste, parce que je n'aime pas les nationalismes quels qu'ils soient. Mais cela ne prouve pas grand-chose, puisque je suis juif, notamment parce que je suis l'enfant, le produit, une tradition immensément forte, que mon enfance était complètement enveloppée par cette tradition, par ces exigences, mais aussi par cette richesse extraordinaire qu'elle offrait à chaque enfant et à chaque fils qu'il était. Donc, le problème est très difficile et de manière d'obtenir cela décevant, mais aussi on peut dire. Cela fait partie de ce que l'humanité est tout court. Tant de choses arrivent au cours des siècles, et on pense que ça va changer et tout à fait le courant de ces fleuves, de l'histoire humaine, mais en effet, c'est un fleuve qui charrie avec lui tout. Les plus belles choses, c'est les cadavres, les assassinés et les assassins. Et elle n'a pas beaucoup changé au cours des millénaires. Nous pensions que, après tout ce qui est arrivé, tout serait différent, que nos voisins nous regarderont différemment et nous les regarderons différemment. Tout cela n'est pas vrai. L'assimilation, comme je dis, aurait dû absolument arriver à vous, ou alors au contraire devenir épidémique. J'aurais dû dire, si ça peut arriver, bien quand même à des gens qui n'y croient pas, alors qu'ils n'ont pas des sacrifices à faire pour leur Dieu, dans cela, disparaissons. Il y a des gens qui ont écrit cela, qui l'ont en effet proclamé comme la seule conclusion logique. Les uns en Israël, alors ceux qui croient, qui veulent être juifs pleinement, et les autres qui abandonnent et se fassent même convertir, même s'ils n'en croient rien. C'est une seule conclusion. En tout cas, si descend de ça, je le répète, finalement, c'est comme les morts de 10 millions de morts de la Première Guerre mondiale et tant d'autres. Vous savez, ces guerres mondiales, avec des conséquences immenses, infinies dans l'histoire, mais sûr, c'est que détermine le choix de chaque homme pour sa vie, pour sa manière de vivre, pour les buts qu'il se propose, ça a peut changer. Dans l'essentiel. Pour les femmes, il y a beaucoup de changements pour l'essentiel. Non. Je dis donc, non, et nous n'avons pas été à la hauteur de qui aurait dû être des survivants qui n'ont pas mérité de survivre, en tout cas pas plus que ceux qui n'ont pas pu survivre. Nous n'avons pas donné un exemple immense de naissance des judaïsmes en tant que réponse au défi qui avait été cette catastrophe, je serais resté dans une médiocrité comme auparavant, sauf pour le seul effort qui a en effet une partie immense, qui est la création d'Israël, Israël en tant qu'Israël qui a créé et Israël qui a été créé, et c'est tout de même pas les Juifs, aussi pas nos contemporains, que ça a été fait. Alors, de sorte que si je cherche une perspective, je ne vois aucune autre perspective que celle d'Israël. Et c'est d'ailleurs aussi à ce titre que demain, avec Jules Hermann, il nous parlera de la réaction du judaïsme allemand face à la Shoah. Avant de vous donner la parole, une petite précision sur la partie que Mme Sperber m'a indiquée en parlant de la foi. Je voudrais donner une petite précision peut-être sur la question du ministre. Problème en tant que juif traditionnaliste et non pas en tant que membre de la confession religieuse israélite. Et la foi d'un juif traditionnaliste, c'est d'abord la foi dans l'histoire juive. Et c'est du dedans de l'histoire juive qu'il y a la rencontre de la foi religieuse et pas l'inverse. Bien entendu, le cheminement inverse peut exister et à partir d'une expérience religieuse indifférenciée, rencontrer l'alliance religieuse du peuple juif. Mais c'est en général le cas, quelles que soient les exceptions, qui pourraient s'expliquer d'ailleurs, c'est en général le cas de l'enjambement des générations dont aussi Mme Sperber a parlé tout à l'heure. C'était ceux qui avaient reçu la foi religieuse issue de la religion juive, mais du dedans du peuple juif à l'échelle de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs grands-oncles, et qui, à l'occasion, rencontrent de nouveau la tradition juive, c'est-à-dire d'abord l'histoire du peuple juif.
Présenté par mon ami Askenazi comme juif allemand, c'est à ce titre que je me permettrai d'apporter quelques commentaires qui confirment l'analyse de Sperber, à qui je voudrais tout de même, en dehors du titre souligné par Askenazi, exprimer mon admiration pour d'autres aspects de son œuvre, comme celle de s'être fait le propagateur de la psychologie individuelle d'Alfred Adler, qui est trop mal connu en France, qui est écrasé par l'énorme prestige freudien, et où l'on sacrifie en France trop souvent cette notion introduite par Adler qui est si juive, celle de la notion de communauté et du respect de la personne d'autrui qui fait du moteur de la vie non seulement l'assomption de la libido, mais le plaisir der Gemeinschaft, de la communauté. Ce qui indique une éthique très différente, non pas celle de la rivalité, de la compétition, mais celle au contraire de l'idéal de Moïse et de Hillel. Et donc, Goubert s'est fait le traducteur dans le domaine à la fois juif et sioniste. Eh bien, je dirais d'abord, j'ai vécu à Berlin après Sperber, et j'ai fait personnellement cette expérience à la fois de l'aveuglement et de la connaissance. De la connaissance, j'ai fait une anecdote. À 9 ans, je circulais en trottinette à travers les rues de Berlin, c'était en 1935, et je m'amusais d'une manière pleine d'inconscience d'effacer sur le mur les inscriptions à l'éclat. Saoyoudé, etc. Et j'étais abordé par un gamin de mon âge, membre de l'Église hitlérienne, et qui me dit, toi, t'es un prêtre au peuple allemand, il faut envoyer tes parents au KZ, au camp de concentration, ils n'y reviendront plus. Ils reviendront dans une petite boîte. Voilà. Des enfants, vous savez. Des enfants. Et dans notre entourage, on disait oui, mais enfin, on ne nous touchera pas, nous sommes des juifs allemands, nous ne sommes pas des Ostudes, des juifs de l'Est, nous sommes des Frankenstein. Il y avait d'ailleurs une association des Israélites allemands, commandants du front, et surtout l'élite décorée de la croix de fer. Et cet aveuglement pathologique, comme vous dites, doit être lié, et vous l'avez dit aussi, à l'assimilation qui a privé la majorité des juifs allemands de cette ferveur dont témoignent vos juifs religieux qui blâment dans l'océan comme le fils du rabbin, parce que finalement, ce qui était horrible, c'est pas l'assimilation. Les juifs allemands, il ne faut pas les appeler juifs là, il faut les appeler comme ils s'intitulaient, israélites. Les israélites allemands, le mosaïque, la tradition mosaïque, ils avaient quand même un reste de tradition, il fallait rester juif, vous savez. Il y avait beaucoup de conversions, mais la majorité voulait rester juif, mais cette manière d'être juif, c'était un malheur. C'était un grand malheur. On l'acceptait, on portait sa croix. Mais on en avait en même temps très haut, on en avait honte. Il fallait se cacher. Et on disait, il y a tout de même quelque chose de plus ou moins vrai dans l'accusation antisémite. Et ça, c'est le premier facteur de cet extraordinaire désarmement des premières victimes du signe annonciateur de l'extermination. C'est que non seulement on ne résistait pas parce qu'on ne voulait pas savoir, mais parce qu'on était honteux de soi. On essayait vraiment, exemple extraordinaire de ces juifs allemands, d'un Balin, par exemple, en 1919, qui était le directeur général de Norddeutsche Leitung, la grande société de navigation allemande, et qui se suicide. Parce que la flotte allemande est livrée à l'Angleterre à Scapa Flow. Ou un député du Reichstag, Frank, député social-démocrate, qui en 1914 fait aussi une tentative de suicide parce qu'on ne veut pas le prendre au front. Et heureusement, on le prend au front et il est glorieusement tué 3 semaines plus tard. Et à partir de cet aveuglement qui était comme le passeport d'entrée des Juifs allemands dans l'Occident, j'en parlerai davantage demain soir, il y a la non-compréhension, comme vous dites, du urbain. Non-compréhension qui faisait qu'on assimilait l'antisémitisme hitlérien, comme c'était encore un fait antisémite, traditionnel, comme on en a connu pendant 2000 ans d'histoire. Alors c'était un fait absolument inédit, qui ne tenait pas seulement à la banalité du mal, mais à quelque chose d'assez faramineux sur lequel il faudrait réfléchir. Et donc, je voudrais simplement donner un élément à travers une anecdote encore. En 1944 en France, quand le front allemand était percé, quand l'armée allemande battait en retraite en Normandie, qu'est-ce que faisait la Gestapo? Qu'est-ce qu'acceptait la Wehrmacht? Le train des déportés juifs avait priorité sur le convoi de munitions, sur les renforts allemands. La lutte contre les juifs était la priorité des priorités. Nous avons là un phénomène d'une irrationalité totale, et dont on ne saurait rendre compte, par exemple, une analyse marxiste, ou simplement positiviste. Le phénomène urbain tient au cœur même, peut-on dire, ce qui n'a pas été compris, de la lutte du nazisme contre le peuple juif. Certes, je me trouverai là peut-être en petite divergence avec vous. Ce phénomène d'une ampleur jamais vue a été précédé d'un autre phénomène qui était l'extermination du peuple arménien en 1915 par les Turcs. Il y a d'ailleurs, ce n'est pas simplement une rencontre, de Rosenberg, qui c'était avait beaucoup admiré le processus turc et s'en était inspiré. Et nous assistons d'ailleurs aujourd'hui aussi à d'autres génocides. Néanmoins, le phénomène nazi de l'extermination était unique, parce que les Turcs menaient une lutte globale, tandis que pour les nazis, il s'agissait d'une lutte planétaire. C'était pour eux comme la lutte entre deux principes, une lutte manichéenne d'imprégnation gnostique. La lutte entre deux peuples élus. Les Allemands, cette notion si mal assimilée par l'Occident chrétien, la notion du peuple élu, qui a ravagé l'Occident pendant 2000 ans, dont témoigne le protocole des sages de Sion, imprégné profondément et clair. Prenez en quelque sorte cette notion de l'élection à rebours, la race supérieure, arienne, allemande, qui ne pouvait triompher que de par l'élimination du peuple juif, l'élimination totale. Et cette lutte totale n'a pas été assimilée par les juifs, parce que c'était quelque chose d'inédit, parce que, comme vous le dites si bien, cette notion faisait appel comme un recours à une identité juive positive dont le judaïsme assimilé ne voulait pas apporter le poids. Qu'est-ce que ce poids était un mal. Comme disait Heine, qu'est-ce que c'est être juif? Être jude, c'est un truc. Être juif, c'est un malheur. Et c'est dans ce sens que le judaïsme assimilé était doublement suicidaire. Car il y avait, entre 1933 et 1937, des moyens de sortir. Alors on n'en est pas sorti. La majorité des juifs allemands sont restés. Et puis évidemment, c'est que les gens se sont fermés. Mes parents faisaient du matin au soir le tour du consulat de Berlin et ils revenaient pour le produit. Il y avait juste Shanghai. Et alors, à partir de là, dans un même esprit, mais peut-être dans une perspective différente, le problème de l'attitude politique du peuple juif. Et dans une approche politique et historique, la question, que faire? Que faire face à l'Orban qui était certain? Il était d'autant plus certain, je me rappelle, le 30 janvier 1933, Hitler a annoncé la colère. Si le peuple juif déchaîne la guerre, il n'y aura pas un seul juif qui se livre à la guerre, il l'a dit. Eh bien, comme plus profondément possible, la seule réponse, c'était inédit il y a 2000 ans, c'était l'État d'Israël. S'il est faux de dire qu'Israël n'a pu se créer que parce qu'il y a eu le Bourbon, cette création a été puissamment alimentée par le mandat. D'ailleurs, Herzl, au moment du congrès de Bâle, avait prophétiquement prévu, ayant pris conscience à travers les cris de haine contre le capitaine Dreyfus dans la cour de l'école militaire, il s'est écrit dans cette nuit bouleversante pour lui, où il a trouvé son chemin de Jérusalem, que n'adviendra-t-il pas de nos malheureux frères de Russie, de Pologne? Si le peuple le plus civilisé de la terre, tel que le peuple français, puisse tolérer cela. Il faut donc un État juif. Et effectivement, après cette horreur jamais vue, l'État d'Israël est la seule réponse. Mais, ici, je me permettrai de poser un problème qui est ce que vous voulez tirer même de mon expérience personnelle que je m'excuse d'introduire ici. Enfant, à cette période-là, et sauvé par l'abnégation extraordinaire de la sixième, c'était la sixième section des écoles israélites de défense, les élites, qui ont sauvé tous les enfants qui leur ont été confiés au prix de perte de très nombreux chefs, dont Raymond Van Winter, qui était le responsable de la sixième à Clermont-Ferrand, là, où il m'a caché. L'effort de sauvetage des élites, par exemple, et d'autres aux Juifs, en France, n'aurait pu se faire, n'a pu être couronné que parce qu'il y avait une solidarité, une certaine solidarité non-juive qui est réelle, et laquelle, je crois, non seulement il faut rendre hommage, mais dont il faut souligner l'importance, et je le ferai même redoubler, dans une larme d'émotion, pour citer l'horreur du ghetto de Varsovie, et à côté du ghetto de Varsovie, il y avait la fête, il y a le carrousel qui tournait, et on s'amusait, et on chantait. Et les combattants du ghetto, vous le dites, avaient quelques revolvers qui étaient vendus très cher par la Craiova. Dites d'ailleurs que le destin du ghetto annonçait celui de Varsovie, de la Craiova. Après avoir laissé mourir des juifs, la Pologne catholique résistante est descendue elle-même dans ce tombeau où est le gémir, où elle est encore aujourd'hui. Ceci me semble être une double leçon. L'immense enseignement de l'Orban, c'est ce que disait déjà Pinsker, c'est l'auto-émancipation. Je peux compter ici que ce soit même. J'ajouterai d'ailleurs une chose qui me fortifie encore dans cette réflexion, encore une petite expérience personnelle. J'étais donc sauvé, moi, dans un collège catholique, à Clermont-Ferrand, à côté de Clermont-Ferrand, en Auvergne. Et un jour, nous recevions l'évêque de Clermont-Ferrand, Mgr Piguet, d'ailleurs futur martyr, il a été déporté à Dachau, la commune Michelet, et Mgr l'évêque a bien voulu me recevoir, le bouton à son anneau, et je lui serre la main, et il me dit une chose assez terrible, qui m'approuve, que je n'imaginais pas. Évidemment pas entendu, mais ça m'impressionne, ça m'a profondément impressionné. Il m'a dit, mon enfant, nous vous avons recueilli chez nous, car il est inadmissible qu'on traite les juifs, qu'on débête les juifs aussi en une âme. Maintenant, qu'on fasse certaines lois au sujet des juifs, ça peut mériter réflexion, c'est un domaine. Mais ce que l'Église ne saurait admettre, c'est qu'on méprise l'âme. Et je dirais, ça indique aussi, dans certains domaines, une limite de l'aide qu'on peut trouver des autres. Mais cette aide néanmoins existait. Je voudrais évoquer ici une autre expérience, celle du maquis juif. Dirigé par Castor Gamzon, qui était comme aussi un ancêtre, qui était comme un rayon, dans une certaine mesure, de la Haganah en France, et bien ce maquis juif travaillait en coordination et était ravitaillé par le maquis français. Commandé par Veuve Mérite. J'ajouterais, à partir de là, donc si notre auto-réalisation semble être une leçon absolue de l'Orban, cette auto-réalisation ne saurait faire abstraction de l'autre, comme dirait Poubert. l'autre existe, l'autre dans son aveuglement, dans la mesure où il ignore la personne juive, prépare sa propre mort. L'Urban juif était comme l'annonciation de l'Urban de l'humanité tout entière. Auschwitz, c'était aussi le tombeau des Tigres de Hongrois, les Français, c'est tous les autres. Quand on touche aux juifs, l'humanité tout entière en souffre. Mais ceci, je crois aussi, indique une réciprocité. L'autoréalisation, l'auto-émancipation juive ne saurait faire abstraction du destin de l'humanité tout entière. Et cela, je dirais d'autant plus que cette identité juive a précisément un contenu qui est une tradition, une réflexion, qui est inhérente à la nature humaine. Et là, il y a, je vois quand même une contradiction qui nous est imposée, qui est inévitable, mais qu'il faut essayer de surmonter. La contradiction qui nous est imposée par la menace de l'Orban, l'antisémitisme, la violence, la mort, et bien cette mort, je crois, il faut dans certaines circonstances, la donner, je dirais d'après une tradition de lui-même, la violence est admissible quand il s'agit de sauver des vies humaines. Pour le reste, pour la sainteté du nom, je vois une communication à ce sujet, mais ce n'est pas quelque chose de joyeux, d'admirable. La guerre est horrible. C'est la négation de la personne humaine, c'est la négation du message juif, et elle ne doit être faite que pour la vie, et dans ce seul mesure, car quiconque touche à la mort est humilié et avili. Dirait là, comme disait Brecht, sens, malheur au peuple qui a besoin des héros. Et dans ce sens, je crois que ce serait une indication malheureuse si à partir de cette nécessaire conclusion du Rouban, nous parvenions à une auto-glorification, comme à une satisfaction amertume, amère de notre solitude, qui pourrait mener à la complaisance et à la perte de notre identité. Notre identité est identité par rapport à nous-mêmes et par rapport à autrui.
Nous avons entendu ce soir beaucoup de choses importantes. Beaucoup de perspectives ont été ouvertes. Et tout à l'heure, lorsque j'ai donné la parole à Kurt, je me suis rendu compte que c'est lui, ce soir, qui devrait s'appeler Ashkenazi, puisque, comme vous savez, en hébreu, Ashkenazi, ça veut dire allemand. Et cela a mis en évidence pour moi une remarque importante que j'ai donnée tout à l'heure concernant ce fait que le réflexe de solidarité des juifs extérieurs aux limites de la catastrophe n'a pas joué. C'est là une indication importante et ça m'a remis en mémoire l'origine de mon nom. Puisqu'en effet, l'ancêtre qui a fondé la famille Ashkenazi en Algérie, où je suis issu, était un juif originaire de Pologne. Et qui était esclave d'une famille chrétienne, qui avait été capturé avec l'équipage d'un bateau qui avait été pris par les pirates barbares, comme on disait à l'époque, dans le Jardin, qui a été vendu sur le marché aux esclaves de Tlemcen en Algérie, et a été racheté le jour même par la communauté juive. C'est de là que vient mon nom. Apparemment, paradoxal. Bien, vous avez immédiatement la parole. Je suis psychologue et enfin, j'ai mes métiers. Et parmi les choses que je pense avoir appris et découvert, et qui va d'ailleurs de pair avec les choses qu'on m'a apprises quand j'étais à ma éducation, donc en plein judaïsme, c'est que l'homme, la personne humaine, est beaucoup plus que ses actes. Tous les actes ensemble, nous sommes rendus par nos deux, sont moins que la personne. En tant que psychologue de nouveau, en tant que qui est vraiment à côté des hommes, au milieu des hommes, oui, j'hésite à identifier 35 ans plus tard un homme avec des actes notamment qui ont été commis et dans des conditions où il y avait très peu de la part personnelle. C'était Müller ou Mayen ou Schultz ou Schmidt. Une fois qu'il était pris dans cette position d'être un jeune nazi convaincu, enthousiaste, c'est annulé. Notamment lorsqu'il s'agit donc des actions qui sont organisées en tant qu'actions collectives, au nom d'une communauté, d'une collectivité, alors venir juger l'homme, et cela me paraît très difficile parce que ce n'est pas le même homme. C'est peut-être toujours encore un homme coupable, un homme minable, mais ce n'est pas encore, ce n'est plus tout à fait le même homme. À cela s'ajoute que, alors là, je peux, parce que le contre-pied de ma propre position, s'il y avait cette justice qui dirait la mort de celui qui t'a tué, mais il n'en est pas question pour tout ça. Donc je n'ai rien dit contre l'exécution de Eichmann. J'étais au contraire et de ceux qui disaient qu'ils n'avaient pas les droits, j'étais tout à fait fou. Parce que ça avait tout de même une valeur d'exemple, exemplaire, et il devait rappeler à ceux qui allaient, notamment en Israël, oublier ou effacer ces événements pour les rappeler d'une façon particulièrement efficiente. Et mais. Et mon ami, parce que c'est mon ami Wiesenthal, je sais que sa motivation est tout à fait pure. Je le comprends parfaitement bien, mais je comprends son besoin d'agir dans cela, qui est plus qu'honorable, mais en même temps, c'est en dehors de toutes les proportions avec ce dont il s'agit. C'est même l'histoire avec les réparations, l'argent. Je n'ai rien contre que des gens prennent l'argent. Mais l'idée que l'on accepte, que j'accepte cela comme réparation, mais simplement, et psychiquement, intellectuellement, impossible, inadmissible. Donc, vous voyez que ma position est à la fois beaucoup plus sévère que la vôtre, beaucoup moins sévère. C'est-à-dire, et je ne suis pas capable de réduire l'homme à un de ses actes. C'est pourquoi j'étais toujours contre la peine capitale, par exemple. Et ici, je vais être pour, dans ces cas-ci. Vous voyez, c'est très compliqué. En effet, tout ça nous dépasse, et de loin. Et si on n'a pas conscience de cela, et je pense qu'il y a très peu de livres sur les camps de concentration, notamment de livres, d'apport, de vécu. Je n'ai pas lu, puisque la plupart de ces livres ou manuscrits ont été écrits en yiddish, évidemment. J'ai lu yiddish. Ben moi, on a donc appuyé. Est-ce que tous ces manuscrits, donc c'est eux, un nombre finalement ont été publiés. Je pense que je sais, avec toute mon aide physique, tout ce qui est arrivé, toutes les sciences qui sont arrivées. Et je crois que pour la plupart de ces hommes, SASS dans les camps. Pour 99%, on peut dire, aucun d'eux n'a jamais commis un acte d'assassinat. S'il n'y avait pas eu, c'est ce que j'appellerais la conjoncture sociale. C'est-à-dire qu'il était mis dans cette situation. Alors, à partir de ce moment, je n'étais pas un défenseur de ces hommes, tant s'en fout. Mais par exemple, j'étais là en 1900, à janvier 1946, lorsque le tribunal militaire français jugeait les boulots des camps de concentration. Il y a plein de barbares. Et ces gens, c'était en effet n'importe qui. Il y avait guère une figure dont on a pu dire qu'il y a quelque chose de particulier en elle. Et en plus, c'était vraiment bien petit partie. Tu savais ce que, combien on commence à descendre à tribunal lorsque les prisonniers, de certains temps. Alors, de cette façon, ils avaient tous l'air criminels, mais comme je vous dis, j'étais aussi criminel lorsque j'avais passé peut-être nombre de semaines dans une cellule tout seul, etc., et sous la menace de mon effet de mort. Par conséquent, en les regardant, je voyais d'abord la misère, l'immense misère, et je me sentais même humilié par le fait de me dire que ces gens avaient le pouvoir de tuer des hommes, ils l'ont fait. Parce qu'en effet, j'aurais pu être, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils étaient, c'était des quartiers, des maisons, etc. En un mot, comme en mille, les marques, qui est du mystique, considéré comme quelque chose de. Je regardais comme indépendant de ceux qui les promettent, de ceux qui se debout. Pour moi, peut-être comme je dis pour la postpartum, mais pour la profession, je n'ai plus un rien qui est abstrait, voire la vérité lorsqu'il s'agit des actions, des attitudes, du comportement des hommes. C'est toujours l'homme. L'homme qui tue, l'homme qui est triste, l'homme qui commet pas seulement des actes ignobles, mais aussi des actes extraordinaires pour sauver une enfance. En un mot, cela se place sur tout autre niveau que celui qui est notre vie quotidienne. Ce sont des êtres tout à fait quotidiens, sans rien de particulier, qui ont été mis à une place où ils ont été transformés et dans un associé examinateur. Comme je dis, même si je dis qu'ils n'auraient jamais fait des choses pareilles, ils n'auraient même pas pensé à d'autres situations. Alors, j'avais dit tout à l'heure, je ne sais pas ce que je dis là, au début, j'avais parlé de ce que j'avais pensé, créer des groupes, des terroristes, pour aller chercher ces criminels, les tuer. Alors, demande, on peut mettre en place, parce que c'est là, ça, réellement la manifestation. Et nous ne sommes pas nés pour être humiliés, abénis, à faire tuer. Et nous pouvons en faire autant qu'eux, et non, nous au nom de la justice. Et finalement, je suis très content que je n'étais pas capable de le faire, ce n'est pas la quelque chose non plus. Par conséquent, non, je parlais de la vengeance, mais en effet, il n'y a pas de vengeance pour cela. À moins qu'on croit en Dieu, alors que Dieu fasse ce nécessaire. Vous savez qu'il est les premières grandes batailles, lorsque les Juifs sont entrés en Canaan, étaient considérées, même notamment les guerres de David, étaient considérées comme des guerres de Dieu. Ces actes ne sont pas des actes de Dieu. Parce que si vous voulez, vous n'avez pas eu la chance de les commettre d'abord, de sacré, et c'est autre. Je ne veux pas vous avoir convaincu que c'est une contraire, je ne sais pas, mais c'est moi qui me compte de la manière dont quelqu'un combat, qui a beaucoup réfléchi sur ce problème. Combien il est, sans être déchiré en lui, je suis tout à fait résolu dans la projection, combien il sent la nécessité absolue de rester à la recherche de ce qui serait la justice de l'homme et des hommes, comme il dit la justice des diables ou la justice des dieux. Je ne la présente pas, je n'ai pas le droit de me dire si c'est la femme.
Je voudrais faire deux réflexions exposées extrêmement intéressantes ce soir. On a l'impression un petit peu, en tout cas je l'ai ressenti comme tel, qu'il y a une certaine gêne même de la part des orateurs qu'on malespère baptiser, qui s'exprimeraient franchement et cruellement, une certaine pudeur, mais une certaine gêne à parler de front de cet aspect moral, plutôt amoral, immoral, de l'extermination juive. On a l'impression que le sujet, aspect politique et moral de l'Holocauste, a été plutôt effleuré que traité brutalement. C'est plutôt les conséquences, la façon dont les gens étaient aveuglés, où les gens n'ont pas su réagir devant, qui a été dite plus que le problème théorique que le titre laissait sous-entendre. Peut-être cela vient-il du fait que, en tant que juifs, nous sommes très mal à l'aise devant ce comportement. Il y a un passage célèbre dans la Genèse, le chapitre 32, verset 7, lorsque Jacob doit rencontrer Ésaü, qui est son adversaire mais son frère, et le verset dit, il a eu très peur et il a été très effrayé. Et Rachid dit, qui vous connaissent, il a eu très peur d'être tué, il a été très effrayé d'avoir à tuer. Et je pense qu'il y en a cette situation justement difficile qui fait qu'on est gêné de parler de ce problème de façon brutale. La deuxième remarque, qui paraît a priori très différente, mais qui la rejoint, est ce qui a été dit en ce qui concerne la réponse donnée par le peuple juif à l'extermination. La seule consolation est Israël. Cette formule est un peu dangereuse ou risque de devenir dans la mesure où elle pourrait sous-entendre qu'il existe un lien, qu'il existerait un lien de cause à effet entre deux événements. Il faut évidemment évacuer, et je pense qu'il faut le dire très brutalement, un lien de causalité entre l'extermination juive et la création d'Israël. Dire, ça n'a pas été dit, mais il y a un risque dans la façon un peu ambiguë dont j'ai entendu la phrase que Israël est notre justification, notre survivant, c'est la seule réponse, c'est la seule consolation, comme si, à Dieu ne plaise, à ce shalom, il fallait l'extermination pour permettre à la paix d'Israël. C'est le prix à payer pour cela. Je crois là que je me limite à ces deux remarques qui me semblaient importantes.
Merci beaucoup, monsieur. Je vais vous répondre. C'est un peu possible parce qu'il est arrivé déjà très tard. Et la première chose que je fais, franchement, il n'y a aucune gêne de ma part. Je parle de moi dans Paris. Seulement, les faits sont connus. Ah, je suis connu maintenant. Et ce sont des faits d'un genre où vouloir apporter des nuances me semble déjà quelque chose d'impossible. Il y a des livres que je trouvais imputants, des livres sur la Shoah, dans ce forme de roman, etc., que je trouvais insupportables, précisément parce qu'ils ont essayé d'apporter ce genre de nuances, d'en faire de quelque sorte un drame, quand en effet cela dépasse à une mesure tout ce dont on puisse parler de cette façon-ci. Et pas de jeunesse, merci tout le monde d'avoir cité Rache, qui était, comme nous voyons une fois de plus, un juif bien intelligent, et c'est toujours raisonnable et utile d'appeler ce que nos hachamim ont dit. Et non, et vous voyez, il n'y a pas par senti cela, et pour des raisons psychologiques très évidentes. En ce qui nous concerne, il y a simplement que vivre avec ou survivre, disons, à cette Shoah, et alors succomber à la loi de la vie quotidienne. Parce que toujours, on succombe après à cette extraordinaire qui est la vie quotidienne.